Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Touchdown Actu, le numéro 730, dont on va parler de draft, évidemment. Nitinia Simiong au micro, très heureux de vous accueillir sur ce nouveau podcast dont on va parler des défensifs tackles aujourd'hui. À mes côtés, Tonio Ajavon. Salut Tonio, comment tu vas?
Salut Niti, ça va très bien et toi?
Ça va, merci. Et la team Fantasy, squat également, la team Draft. Hein.
Exactement.
Oui, hein, voilà, on est en train un peu de monter en grade, on va dire, hein, dans le jargon. Mais on a déjà fait hein, les podcasts Draft de ce format l'an dernier également. Moi, c'est ma première à l'animation également. Et on va parler donc d'une position qui a quand même une cuvée assez profonde, mais qui ne manque pas de qualité. Évidemment, on va faire ça en trois parties, évidemment, juste après les quarterbacks que vous avez eus il y a quelques jours avec Jean-Michel et Victor. Là, on va faire de l'autre côté du terrain, et donc les hommes de ligne défensive intérieure. Et sans plus tarder, Tonio, première partie dont on va parler, bah, c'est des joueurs qui vont tutoyer le premier tour, on va pas se mentir, ou alors des joueurs qui ne sont pas très loin du premier tour, à commencer par Johnny Jerzan Newton, dit couramment Jerzan Newton. Je vous renvoie vers la pastille avec Victor Hoyer qu'on avait fait en saison régulière quand on a évoqué le profil du joueur d'Illinois. Je vous renvoie également vers la draft qu'on a fait, la mock draft qu'on a fait sur Twitch avec Jean-Michel et Victor. On a déjà parlé de ce joueur, mon opinion n'a pas trop changé sur lui, voire même c'est un peu plus haut, on va dire, par rapport à ce qu'il a fait cette saison. Une saison incroyable, une saison à 7,5 sacs notamment. Il est assez complet, il est très agile. Un peu petit peut-être hein, comme joueur, mais est-ce que c'est un problème, Tonio? Est-ce qu'on a là peut-être le nouveau Aaron Donald ou pas du tout?
Alors, peut-être pas autant, on va se calmer un petit peu. Mais effectivement, ouais, cette classe de defensive tackle, elle est très intéressante parce qu'à mon sens, il y a deux joueurs qui se détachent, dont Jerzan Newton, et puis il y a des profils assez différents, et même le profil de Newton, il est assez particulier, parce que comme tu l'as dit, disons que ce n'est pas le morphotype du defensive tackle moderne, comme on peut voir avec Dexter Lawrence ou d'autres joueurs de ce type-là. Il est un peu plus petit, mais il a une telle puissance dans le bas du corps, il arrive à générer une telle vélocité sur son premier pas, ça, franchement, c'est un régal à voir. C'est là qu'il arrive à gêner le plus les joueurs de ligne offensive adverse. C'est juste là sur son départ, sur les premiers pas, pop-up, il génère une puissance folle. Et en plus, il joue très près du sol. Alors forcément, c'est l'avantage de ne pas être ultra grand. Bon, il fait quand même 1m87, 88. Mais disons que pour la position en 2024, on pouvait s'attendre à plus grand. Mais malgré ça, il arrive à jouer près du sol et avoir un centre de gravité très, très bas qui fait qu'il est très efficient contre le jeu de course. Et même contre le jeu de passe, je trouve qu'il a une marge de progression assez folle. Parce que, comme tu l'as dit, il a fait 7 sacs et demi cette saison. Et tu sens qu'il en a encore sous le capot, quoi. Parce que, justement, la force qu'il génère du bas du corps, je ne la retrouve pas forcément sur le haut du corps. Je sens que là, avec un programme de développement en NFL, ça pourrait être encore plus poussé. Je ne sais pas ce que tu en penses, sur ce point de vue-là.
Le centre de gravité que tu mentionnes très bien, justement, là, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le point fort du bonhomme. Après, c'est vrai, c'est ça, vraiment sa taille qui va peut-être le desservir et qui pourrait peut-être le faire basculer hors du premier tour. C'est souvent ça que retiennent les recruteurs NFL, c'est ses dimensions physiques. Néanmoins, c'est vrai, tu l'as bien dit, un vrai, ce qu'on appelle, entre guillemets, ball rush, donc ce qu'on appelle vraiment le premier pas, l'explosivité qu'il a. Et c'est il faut regarder les matchs hein, de Jarza Newton pour constater que c'est vraiment un premier tour peut-être en puissance. Sinon, dans quel schéma tu le verrais, Jarza Newton, en NFL, tu penses dans une 34 en tant que defensive
Ouais.
end ou dans une 43 plutôt en defensive tackle?
Bah, tout à fait. Moi, je pensais plus en défense 3-4 parce que, en fait, c'est un profil assez unique. Il est très fort. Je pense qu'il va être très fort en NFL, mais c'est un profil assez particulier en ce sens qu'il a. En fait, c'est pas tant la taille qui est gênante, c'est surtout la taille de ses bras. Parce que,
Ouais,
bien.
c'est vrai que l'envergure n'est pas là. Ouais.
Exactement. Et donc, je le vois pas en pass rusher pur, mais dans une défense 3-4 sur l'extérieur, ce serait le profil idéal pour moi.
Alors, on a parlé donc de celui qui va probablement être le premier défensif tackle appelé, mais peut-être pas, puisque on a un joueur peut-être qui va le menacer, qui montre dans les rapports. Il s'agit de Byron Murphy de Seguin, deuxième du nom, comme on dit en français. Donc, il nous vient du Texas, demi-finaliste universitaire. Un bon 1m85 pour 136 kilos. Hein. Il a fait 5 sacks cette saison en 2023. C'est un joueur, moi, je trouve, qui est hyper technique. Voilà, qu'on un peu voilà d'une fluidité, on va dire l'un des athlètes les plus fluides en tout cas de cette QV. Mais en tout cas, moi, ce qui me dérange avec Byron Murphy, c'est il a tout de même une belle technique, mais alors en termes de décrochement des blocs, lorsqu'il a face à lui un lineman offensif de forte qualité ou alors très très bon en bloc, il aura un peu de mal et donc c'est peut-être pour ça qu'au niveau de ses mains, il va falloir qu'il travaille un peu. Mais néanmoins, ça reste tout de même un défensif tackle de qualité qui est très jeune et qui a un vrai potentiel. Et c'est pour ça justement le potentiel qui pourrait peut-être le basculer vers le premier tour, Tonio. Est-ce qu'il pourrait souffler cette place à Jarza Newton? Et si oui, pourquoi?
Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout. Pourquoi? Mais parce que, encore une fois, c'est un format assez particulier. Format, c'est peut-être un mot un peu barbare pour parler de son physique. Mais disons qu'il est très compact. Il est petit, très lourd, très costaud. Mais c'est une boule d'énergie. Ses pieds sont constamment en mouvement. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué quand j'ai regardé ses vidéos. Ses pieds bougent tout le temps. Il ne s'arrête jamais de bouger. Et pareil, un peu la même qualité que Jarza Newton, c'est-à-dire qu'il génère énormément de puissance grâce à ses jambes. Et comme tu l'as dit, son point faible, ben c'est ça. Il n'a pas encore la jugeote de savoir quand attraper, quand lâcher ses adversaires de ligne offensive. Ce qui fait qu'il a eu, enfin, les prises à deux, à chaque fois qu'il a été pris à deux, je l'ai trouvé beaucoup, beaucoup en difficulté. Je ne sais pas s'il sera beaucoup pris à deux en NFL, mais si c'est le cas, ce sera difficile pour lui. En tout cas, il a des qualités, notamment contre le jeu de course, où sa puissance va être phénoménale et va être très très utile pour l'équipe qui va le drafter.
Ouais, quasiment 9 plaquages pour perte, effectivement, cette saison pour Byron Murphy. Pareil, moi aussi, j'ai un peu de mal. J'ai posé la question pour Jarza Newton il y a quelques minutes. Je te pose la même question. Moi, j'ai du mal à voir où il pourrait y aller parce qu'il est trop petit pour un défensif tackle vraiment pur dans une 43, ou alors il est trop massif pour un défensif tackle en 34. Donc, je sais pas trop, en fait, où est-ce qu'il sera. On va dire un peu plus, on va dire où ses qualités vont être exposées. Pareil que Jarza Newton, peut-être un problème de schéma NFL ou alors il sera jamais un obstacle, je pense. Je pense qu'on peut
Ouais,
être
ouais.
d'accord là-dessus.
Mais après, pour lui, disons que je ne me fais pas trop de soucis sur le système dans lequel il sera utilisé. Ce sera plus les joueurs qui seront à côté et autour de lui. Je pense que pour qu'il soit vraiment efficient, ben comme il a été cette saison à Texas, il faut qu'il y ait un autre joueur de ligne offensive très très solide avec Tevondre Sweat, dont on va parler dans un instant. Ce genre de profil où, disons qu'il ne sera pas contraint de lutter contre des prises à deux. Il va être un peu l'oublié de cette ligne défensive et il va pouvoir faire faire son taf, sans que ce soit une défense 3-4 ou 43, je me fais moins de soucis pour lui que Jerzan Newton.
Voilà, et en plus en anglais, c'est ce qu'on appelle tweener. Donc en fait, c'est vraiment une personne qui est petit pour la position, mais est pas assez imposant, on va dire, pour voilà, en termes de puissance, pour pouvoir être un solide defensive tackle en NFL. Mais néanmoins, c'est un potentiel. Il n'a seulement que 21 ans. Et vraiment, le combine sera vraiment très, très important pour lui, je pense, parce que s'il parvient à faire des tests physiques, on va dire, incroyable, entre guillemets, il sera probablement devant Jerzan Newton et peut-être au premier tour. Donc voilà, il y a peut-être une équipe qui va peut-être tomber amoureux de lui pour la suite. Pour la suite, justement, Tonio, on va parler d'un joueur qui va climatiser le débat, qui a peut-être climatisé le débat de tout observateur NFL, de tout recruteur NFL même. Le joueur des Miami Hurricanes, de Miami, Florida, Leonard Taylor, troisième du nom, Leonard Taylor the Third. C'était une star à sa sortie du lycée, une recrue 5 étoiles. Et oui, vu son gabarit, parce qu'il n'était pas très petit, très petit, il faisait 1m91, mais il était surtout imposant et avec une agilité incroyable. Voilà, un joueur hyper puissant. Et je me demande si à Miami, Florida, il était bien exploité, parce qu'il jouait dans de multiples schémas sous Mario Cristobal et même avec l'ancien entraîneur de Miami Florida dont j'ai oublié son nom. Mais voilà, on est là sur un vrai profil. Soit il monte, soit il ne passe pas le cut des trois premiers tours. Bref, Tonio, on est sur un profil qui clairement est polarisant.
Ouais, ben moi ce que j'ai mis dans mes notes, c'est diamant à polir. Ce qui est un peu embêtant après toute la hype qu'il a suivi en sortie de lycée. On aurait aimé qu'après ces années à la fac, il soit un peu plus poli, un peu plus prêt pour la NFL, mais diamant quand même. Parce que pour le coup, ses mensurations sont exceptionnelles. C'est le prototype justement, lui, du
Ah
defensive
ouais.
tackle moderne, qui peut jouer pareil dans n'importe quel système. Il a la taille, il a la puissance, mais il y a vraiment des trucs qui, moi, me. Ouais, qui m'embêtent un peu. Qui m'embêtent un peu. Par exemple, l'usage de ses mains. Un mec aussi costaud, il y a tellement de fois il finit pas ses actions ou c'est pas assez violent et tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait de tous ses muscles quoi? Il se repose que sur la force de ses jambes et avec ses bras il fait rien alors qu'il a des biceps mais c'est incroyable le truc quoi. Et pareil il joue aussi très très haut. On parlait de centre de gravité bas des deux premiers joueurs. Lui pour le coup il fait pas souvent l'effort de jouer près du sol. Il fait pas preuve d'une grande souplesse ce qui fait qu'il est encore limité contre la passe alors qu'encore une fois il a des mensurations parfaites pour être un bon joueur contre la passe. Alors lui, franchement, ça va dépendre de l'équipe dans laquelle il va tomber, le coordinateur défensif, le coach de ligne défensif. S'il tombe avec des bons entraîneurs, d'ici 2-3 ans, ça ne m'étonnerait pas qu'on parle d'un, peut-être pas All Pro, mais en tout cas un Pro Bowler sans problème, quoi. Mais s'il
Ah
tombe
oui, mais
dans. Vas-y,
ah
vas-y.
oui, mais là je suis ah oui, mais là je suis hyper d'accord avec toi. C'est exactement le même genre de description que je fais de Leonard Taylor III. Moi, je vais même un peu plus loin. Je dirais même que le staff et le coaching staff de Miami, Florida l'a mal exploité. Je dirais pas que c'est un problème voilà de coaching staff. Bien sûr, on a parlé de l'individu qui a peut-être du mal à exploiter ses qualités, mais on le sent. C'est un profil frustrant. C'est un
Ouais.
profil très frustrant à évaluer. Et donc, on ne sait pas trop si, finalement, au premier tour, c'est une bonne idée. Et c'est ce que j'ai mis dans l'article du podcast, hein. Est-ce que c'est un pari rassurant ou est-ce que c'est un pari vraiment, on va dire, vraiment à qui tout double, quoi, pour Leonard Taylor? Ça reste risqué. Ça reste risqué.
Ouais. Disons que si j'étais un front office avec pas une très grande sécurité du job, je prendrais pas le risque. Si je suis une franchise déjà bien solide et je sais que je ne vais pas être viré à la moindre cagade, par exemple les Ravens ou les Chiefs, pourquoi pas faire le pari Leonard Taylor dès le second tour, pourquoi pas, et ça pourrait s'avérer un pari gagnant, quoi.
Voilà, donc surtout que voilà, il a passé 3 saisons en université et voilà en carrière universitaire, il a seulement fait 6 sacs quoi
Ouais.
pour une personne dont on attend beaucoup hein, d'une recrue 5 étoiles. Alors pourquoi on l'a mis dans cette première partie? Car il y a le potentiel, il a ce potentiel pour vraiment être un joueur du premier tour. Mais voilà, il a peut-être trop de ce qu'on appelle des red flags, on va dire de points négatifs qui fait que peut-être qu'il va descendre, et ça ne nous étonnerait pas non plus s'il sera en dehors des trois premiers tours. On passe à la deuxième partie de notre podcast sur les defensive tackles, Tonio, et on va parler de Tevondre Sweat. Tu l'as cité il y a quelques minutes en parlant de Byron Murphy de Seguin. Voilà, Tevondre Sweat. Alors là, on est sur une partie où on a de la masse. On a de la masse physique parce qu'on a trois joueurs là qui vont arriver. Tevondre Sweat en fait donc partie, mais les deux autres, ils n'ont rien à lui envier. Hein, là aussi, à Tevondre Sweat. Et là, on est sur une masse physique hein, de 1m93 pour 161 kg. Voilà, donc ça pose le bonhomme. Donc Tevondre Sweat, il a peut-être une dimension physique imposante, mais alors, peut-être que l'impact, alors là, Tonio, on peut peut-être expliquer l'inexplicable. Pourquoi un monstre physique comme ça n'est pas impactant sur la ligne de scrimmage?
Alors, moi, je ne vais pas être très objectif parce que très honnêtement, c'est un de mes joueurs préférés, tout poste confondu, de cette classe 2024. On parlait tout à l'heure de profil atypique. Lui, pour le coup, c'est un profil atypique pour la NFL moderne qu'on ne retrouve pas forcément. Il y a Jordan Davis qui lui ressemble un peu du côté des Eagles, mais ça s'arrête presque là. Alors pourquoi, disons qu'en
termes... Là, on parle physiquement, hein, on ne parle pas de manière technique ou de production.
Tout à fait. Alors, en production, ça laisse un peu à désirer, mais j'ai envie de dire, c'est les défauts de ses qualités. Il est très grand, il est très lourd, et moi, j'ai regardé pas mal de matchs de Texas cette saison, et c'est vrai qu'à mesure que les matchs avançaient, son impact diminuait, simplement parce qu'il se fatiguait plus que les autres joueurs de ligne qui, eux, sont plus légers. Et peut-être un peu plus mobile, encore que il fait plus de 160 kilos, mais quand on le regarde, il paraît pas obèse. T'as pas l'impression qu'il y a tant de kilos superflus que ça. Alors forcément, ça va être un détail à surveiller tout au long de sa carrière. Je pense que le staff de l'équipe dans laquelle il va tomber, ils vont pas le lâcher là-dessus. Mais ça reste un bel athlète quand même. Il a des qualités athlétiques assez rares, parce que être aussi lourd et arriver à bouger d'une telle manière, même si, encore une fois, sur la durée des matchs, ça a tendance un peu à diminuer, c'est quand même très très beau. Et puis surtout, comme c'est un joueur atypique, moi j'aime bien, dans mes constructions d'équipe, prendre un peu le zag des zigs des autres équipes. Je m'explique. C'est un profil qu'on ne retrouve plus beaucoup dans la NFL moderne. Si tu l'as, ça te donne un avantage par rapport à d'autres joueurs. C'est-à-dire, c'est un bouffeur d'espace. Dans les années 90, je pense que ça aurait été un premier tour sans question. Tu vois. En 2024, il n'y en a plus beaucoup des joueurs comme lui. Mais justement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, sa valeur augmente, à mon sens. Une équipe qui... encore une fois, je prends l'exemple de Jordan Davis. Jordan Davis avec les Eagles, il joue. Pourquoi il joue? Parce qu'il s'avère que contre la course, c'est un monstre. Il bouffe l'espace et des joueurs comme lui, il n'y en a plus beaucoup. Quoi.
Justement, Tevondre Sweat, justement, des joueurs comme lui, il n'y en a plus beaucoup. Après, moi, l'autre problème que j'ai, c'est que Tevondre Sweat, en 2023, il a doublé ses statistiques. 45 plaquages, 2 sacs, 5 passes déviées, ce qui est quand même énorme pour un defensive tackle. Et donc, je me demande si le plancher, il est énorme, clairement. Donc, pour une équipe NFL qui pense à un defensive tackle, on va dire, prêt pour la NFL, c'est votre homme. Mais clairement, si vous misez sur le potentiel, alors là, Tevondre Sweat, c'est clairement pas votre homme. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le potentiel du joueur. Parce qu'on sait ce qu'il vaut, et finalement, les points faibles, on sait déjà ce qu'il a. Donc, c'est aussi ça le béaba. Et c'est peut-être pour ça qu'on le voit seulement qu'en deuxième partie, parce que, comme tu l'as dit, c'est un monstre physique, c'est un mec qui peut bouger n'importe quel lineman offensive, et pourtant, c'est peut-être finalement qu'un deuxième, voire un troisième tour.
C'est ça. Mais en fait, c'est un joueur qui est finalement assez facile à scouter. Quoi. Il a des qualités évidentes et des défauts qui, je pense, il ne va pas vraiment les améliorer. Quoi. Il ne va pas devenir... Il n'aura pas plus d'accélération à mesure que sa carrière va avancer. Il n'aura pas un premier pas plus rapide à mesure que sa carrière va avancer. Mais par contre, pour le bouger sur la ligne de scrimmage, bonne chance. Quoi. Il faut se lever tôt. Quoi.
Voilà, exactement. Et bonne chance, effectivement, aux hommes de ligne offensive qui ont à l'affronter. Parce que je pense que là, on verra un vrai spécimen en NFL pour l'an prochain et les prochaines années. On passe à un champion universitaire pour continuer cette émission, Chris Jenkins, le joueur de Michigan. Donc, alors là, on est sur un profil aussi peut-être un peu unidimensionnel, Tonio. J'en ai déjà parlé de Chris Jenkins en saison régulière avec Avec Victor Rouillet, avec Jarza Newton, justement, on a parlé de Chris Jenkins, donc qui est vraiment un défensif tackle que j'aime beaucoup, voilà, pour faire le parallèle avec le podcast. Et Chris Jenkins, il n'a pas fait des statistiques de fou. Donc, si vous cherchez un pass rusher du côté des équipes NFL, clairement, ce n'est pas votre homme. Chris Jenkins, par contre, c'est vraiment un pur défenseur contre la course. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Tonio, ou est-ce que clairement, il est capable de s'améliorer en tant que pass rusher?
Je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour tout te dire, la première ligne de mes notes, athlète incroyable, technique au point, mais assez unidimensionnel. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors déjà, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, c'est le fils de Chris Jenkins. Donc, il est junior, hein, Chris Jenkins. Donc,
oui. Bah, Chris Jenkins junior, et il n'y a pas de Sagan, je pense que c'est que le premier, là, finalement.
C'est ça. Donc, il connaît les exigences de la NFL, c'est un fils d'eux, il a vu son père être un plutôt très bon joueur dans la ligue, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, du côté mental, il n'y a aucune question à se poser. À l'université, champion, il a été excellent cette saison. Il a des qualités qui, contre la course, sont évidentes, très solides sur ses appuis, et tout ce qu'il fait, ce qui me saute aux yeux, c'est la propreté. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de superflu, tu sens que c'est un mec qui a bien appris ses leçons, quoi. C'est très scolaire, mais c'est propre. Il a des mains violentes et assez solides. Tout à l'heure, on parlait du QI football pour savoir quand on attrape et quand on relâche ses adversaires. Lui, il a un peu ce côté Vistler qu'il maîtrise un peu aussi. Tu sens que voilà, c'est un pro. Il sera pro, il va avoir, je pense, une assez longue carrière dans la NFL. Mais effectivement, pass rusher, c'est pas son truc. faut pas lui demander.
Ouais, il a joué quasiment tous les matchs, effectivement. Il a rarement été blessé. C'est peut-être ça qui va rassurer les recruteurs NFL. Et c'est pour ça que, moi, j'ai dit dans le podcast avec Victor, j'ai dit que c'était un joueur solide. Et c'est clairement le prototype du joueur qu'on a avec Chris Jenkins. Athlétique, tu l'as dit, effectivement. C'est vrai qu'il est hyper athlétique. Voilà, je disais effectivement qu'il y avait de la masse physique. On en a là de la masse physique, mais moins que Témandré souhaite, on va dire. Mais c'est vrai que là, on est vraiment sur un profil peut-être vraiment pur défenseur contre la course. Il ne sera peut-être pas encore un titulaire en puissance en NFL dès sa première année. Je pense que là, on sera d'accord là-dessus.
Ouais.
Mais par contre, pour un deuxième, troisième tour, c'est vraiment un choix vraiment sans risque, on va dire, entre guillemets. Surtout qu'il a même fait une interception, alors que c'est pas son truc, faire une interception. Mmh. Et même recouvrir un fumble la saison dernière. Donc c'est clairement un joueur, en plus champion universitaire, et qui est donc en confiance lorsqu'on va aborder le process combine.
C'est ça. Mais juste le seul truc, disons, qui me ferait douter un peu, c'est même pas douter, c'est le mauvais mot, mais disons le bémol que j'aurais à émettre à son sujet, c'est que c'est un athlète incroyable, mais que par moment, ça ne se voit pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre, dans ce sens qu'il est un peu... il va pas forcément à fond tout le temps, où tu as l'impression qu'il n'utilise pas bien encore toutes ses qualités athlétiques. Alors, ça, c'est évidemment de loin et sur nos vidéos, donc c'est difficile à juger en personne. J'imagine que les scouts et les coachs des équipes NFL auront une meilleure appréciation là-dessus. Mais c'est vrai qu'avec de telles qualités athlétiques, j'aimerais le voir sur chaque snap, quoi. J'aimerais le voir exploser sur chaque snap.
Il était dans une ligne défensive de Michigan où vraiment les coéquipiers ont vraiment profité peut-être de son travail pour pouvoir gonfler leurs statistiques. Mais ce n'est pas lui, on va dire, qui va être le principal pass rusher. Et effectivement, c'est peut-être là où c'est frustrant. C'est que, comme on l'a dit plusieurs fois, ce ne sera jamais un playmaker. Ce n'est pas le mec en quatrième tentative qui va aller sur le second rideau. Il va juste servir de point d'ancrage pour les autres pour pouvoir, on va dire, saquer le quarterback. En fait, c'est un joueur collectif. Chris Jenkins, ce ne sera jamais, je pense, une star en devenir. S'il devient comme Chris Jones, alors là, je pense qu'on on va juste être hyper étonné, mais non, je pense qu'il sera vraiment un vrai, comme on dit, run stopper, un vrai défenseur contre la course pour le moment dans ses premières années. Et voilà, il est encore jeune, et si on le développe bien en tant que pass rush pour les prochaines années, je pense qu'il va être vraiment un joueur solide, et pourquoi pas un All Pro, mais je pense qu'on en est encore un peu loin. On passe à notre dernier joueur de cette deuxième partie. Alors là, je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Ruke Orororo. Voilà, donc le joueur de Clemson qui vient du Nigeria, Tonio, ouais, qui est né à Lagos, donc la capitale du Nigeria. Ruké Orororo, Jean-Michel en a parlé lors du podcast sur la deuxième partie sur les defensive tackles en saison régulière. Malheureusement, il n'y a pas l'autre Tyleq Williams qui lui est retourné en université. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas aujourd'hui pour ceux qui suivent les podcasts sur Touchdown Actu. Donc pour revenir sur Ruké Orororo, très régulier comme joueur Tonio, hein, 8 plaquages pour perdre sur les 3 dernières saisons universitaires et un record en carrière en saison 2023 avec 5 sacks cette saison. Ruké Orororo, il a évolué au sein d'une ligne défensive de Clemson avec son comparse Tyler Davis, dont on ne va pas parler malheureusement aujourd'hui, et qui a fait la paire. Qui a fait la paire puisque clairement la défense de Clemson a vraiment été très souveraine malgré la saison difficile des Tigers en 2023. Moi, je trouve que c'est un joueur hyper polyvalent. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Jean-Michel lors de son podcast. Par contre, moi, le souci que j'ai avec Ruké Orororo, parce qu'il y a forcément un souci, c'est que c'est peut-être un monstre physique. Clairement, là, on est sur un beau bébé, hein, d'1m93 également pour 134 kilos, 132, 134 kilos. Et donc, c'est son manque de vitesse qui va probablement le pénaliser. Et donc, au combine, ça va être très important de voir si dans le 40 yards, il va pouvoir être au niveau des defensive tackles précédents qu'on a évoqués par la suite. Et donc, il est peut-être polyvalent. Et donc, dans quel schéma, Tonio, tu le verrais, on va dire, on le verra utiliser le mieux ses qualités?
Alors, le meilleur schéma, pour moi, ce serait une défense 4-3. À l'intérieur où il aurait un peu plus de soutien parce que c'est un joueur qui est encore très brut à mon avis. Il a des qualités que tu as très bien énoncées, hein. Il est polyvalent. Même s'il n'est pas très rapide, moi je trouve qu'il use bien de sa vitesse. En fait, il utilise entre guillemets, le peu de vitesse qu'il a pour la transformer en puissance dans ses moves. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors pour le coup, c'est totalement l'opposé de Chris Jenkins. Chris Jenkins, c'est un joueur propre. Rookie, moi je l'appelle Rookie. Je vais pas me rester sur le nom de famille. Rookie, lui, ce qu'il fait, c'est pas très beau à voir. C'est pas très beau à voir, mais c'est diablement efficace. Tu sens que c'est pas un mec qui fait du football américain depuis qu'il est tout petit, qu'il est encore en phase d'apprentissage. Mais ce qui est encourageant, c'est que toute sa carrière universitaire, on l'a vu progresser petit à petit. On l'a vu ajouter des choses à chaque fois. Même des petits moves. Alors, il a un spin move encore une fois, qui est pas très beau à voir, qui est très mécanique, qui est un peu scolaire, mais qui marche. Et puis, il a une violence dans les mains. Il a vraiment des parpaings à la place des mains, quoi. Ça, c'est vraiment beau à voir. C'est le seul côté beau à voir dans son jeu, j'ai envie de dire.
Justement, à propos des mains, c'est peut-être effectivement lui qui a le plus de mains violentes avec justement Jerzan Newton, dont on n'a peut-être pas vraiment parlé de ses mains, mais c'est vrai qu'en termes de violence au niveau des mains, là on est sur vraiment un profil un peu pancake, quoi, comme on
Ah
dit
ouais.
dans le jargon. Le problème de Ruké Orororo, c'est un peu comme Tevondre Sweat. Il est hyper expérimenté, il a fait 5 ans en université. Alors il y a l'année Covid, hein, évidemment, en 2020, mais en tout cas, on a peut-être vu le meilleur de Ruké Orororo en 2023, malheureusement. Et c'est peut-être là où est le problème, c'est que peut-être le potentiel, il est peut-être pas très élevé, mais par contre, le plancher, il est bien là. Là aussi, on est sur un défenseur qui est NFL ready.
Après, là, je vais peut-être être un peu en désaccord avec toi. Le fait que chaque année, encore une fois, il a ajouté des petits trucs, je me dis pourquoi pas encore progresser en NFL. Je ne suis pas si certain. Alors, je ne pense pas que ça va devenir une superstar, mais pourquoi pas encore progresser? Je ne suis pas sûr que le rookie qu'on voit aujourd'hui, c'est le rookie qu'on va voir toute sa carrière en NFL, tu vois.
Ouais, j'entends, hein, effectivement, peut-être qu'il a toujours une petite marge de progression, mais c'est peut-être ça qui va l'en empêcher d'être un joueur du premier tour, voire même du second tour. Tu
Ah
vois,
oui,
vu que
dans ce
les
sens-là,
deux
ouais.
premiers tours, on draft beaucoup sur le potentiel, les joueurs très très haut, on va dire, des joueurs jeunes. Lui, il a 23 ans, il aura 24 ans lorsque la saison rookie va débuter. Après, l'avantage, c'est qu'il a vraiment une belle histoire, hein. Il a déménagé aux États-Unis à 9 ans. Donc voilà, et puis comme tu l'as dit, c'est pas son sport, on va dire, natif, le foot américain.
Ouais.
Donc effectivement, on est là sur un profil qui. On sait de quoi il est capable. Et je pense que pour les trois quarts de son profil, on sait de quoi il n'est pas capable. Et c'est peut-être ça qui va peut-être le faire basculer au-delà du troisième tour. Mais en tout cas, je pense que le combine va une nouvelle fois déterminer de quoi il est capable. Et puis les entretiens aussi, ça va être important pour lui, pour voir si il va s'insérer dans un schéma, être polyvalent, en tout cas comme on espère et comme on l'a vu en université. On va terminer avec notre dernière partie, encore trois joueurs à évoquer dans cette dernière partie qu'on peut appeler un peu nos sleepers, allez, pourquoi pas, mais pas vraiment sleepers, car en fait il y a des joueurs qui peuvent vraiment prétendre aux trois premiers tours parmi ces joueurs, et le premier candidat, c'est un joueur de LSU, et c'est pas celui qu'on croit. C'est Mekhi Wingo,
ouais.
Un peu petit, qui a fait la paire avec Mason Smith, qu'on va pas évoquer malheureusement, mais qui se présente à la draft également lui aussi. Mekhi Wingo, pour moi, je le vois comme un point d'ancrage, clairement, pour monopoliser le lineman offensive. Et moi, tu sais comment je le vois, je vois un peu comme un Pac-Man, c'est-à-dire un mec qui vraiment court partout et que dès qu'il heurte un lineman offensif, il va tout de même s'en débarrasser avec rien qu'avec son corps et aller directement sur le second rideau. Donc c'est cette explosivité dès le snap que je vois en lui et qui me fascine. Après, effectivement, on peut toujours avoir des petites réticences sur la technique qu'il a au niveau des mains, notamment assez brouillon, mais il est jeune, il a 21 ans seulement, et bon, il est petit, ok, il est pas puissant, ok, bon, il a manqué la moitié de la saison, bon, ok, mais est-ce qu'il a les capacités pour s'imposer en NFL, Tonio?
Ouais, moi très honnêtement, on l'a mis dans le tier 3. Ça m'aurait pas choqué qu'on le mette un tier plus haut. C'est un 3 technique assez classique, mais qui a des qualités pour moi qui vont marcher en NFL, quoi. Alors tu l'as bien dit avec ton analogie Pac-Man, mais effectivement il a un énorme moteur, ce mec ne s'arrête jamais, tant que le quarterback n'a pas lâché la balle ou tant que le coureur n'a pas franchi la ligne de scrimmage, Wingo il est là et il va rien lâcher malgré sa petite taille. Il est 1m83, mais il est court sur patte, il a des petits bras. Mais il a une grosse puissance, encore une fois, comme des joueurs qu'on a évoqués plus haut, de son bas du corps, de ses jambes. Et moi, je le vois même une assez bonne marge de progression, parce que comme tu l'as dit, il y a encore des choses à revoir, quoi. Ses mains sont correctes, mais sans plus. Ce mec, tu lui apprends à bien utiliser ses mains, tu lui donnes quelques moves, parce qu'il a un speed move assez efficace, mais en dehors de ça, bon, il n'y a pas grand-chose. Si tu l'entraînes bien, tu lui donnes quelques pistes pour progresser, honnêtement, je le vois très 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 bon en NFL. C'est peut-être pas mon chouchou, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup.
Bon, en tout cas, en trois saisons, Mekhi Wingo, il m'a bien surpris déjà lors de sa première année, où il a fait notamment une interception retournée pour un touchdown de 40 yards. Alors là, il fallait vraiment le voir, celui-là. Mais en tout cas, au fil des saisons, c'est vrai, j'ai trouvé qu'il avait vraiment progressé, notamment pour aller dans le second rideau. C'est pas tellement ce qu'on lui a demandé les deux premières années, mais là, avec 4,5 sacks, il était l'un des meilleurs joueurs de la ligne défensive de LSU. Surtout que LSU, défensivement, c'était très compliqué l'an dernier. Ils ont encaissé beaucoup de points. Mais ça, ce n'est pas vraiment de la faute de la ligne défensive. On va plus chercher le côté des linebackers et du second rideau pour les fautifs, entre guillemets. Mais en tout cas, Mekhi Wingo, c'est vrai que c'est un prospect qu'on a l'habitude d'évaluer quand on est petit. C'est-à-dire, quand on est petit, on observe est-ce qu'il a de la vitesse, est-ce qu'il est puissant, etc. Et on sent que la puissance, on sent que c'est encore en cours de progression, comment dire, pour avoir une puissance optimale. On sent que, voilà, en vitesse, là, par contre, il a peut-être la meilleure vitesse, peut-être, de cette QV, avec peut-être des Byron Murphy ou des Jerzan Newton. Il ne s'arrête jamais, comme tu l'as bien mentionné.
Oui, juste
on va passer...
un petit dernier point que j'aimerais évoquer à ce sujet, c'est que moi, quand je regarde des joueurs aussi petits que lui pour les postes de ligne, ce que j'aime regarder, c'est l'équilibre. Est-ce que tu finis souvent au sol? Est-ce que tu arrives à tenir face à des joueurs qui sont plus gros et plus grands que toi? Et lui, pour le coup, il est toujours solide sur ses appuis. Je ne l'ai jamais vu au sol. Sur toutes les vidéos que j'ai regardées, il n'est jamais par terre. Et ça, c'est magnifique.
Ouais, c'est vrai que l'équilibre fait partie de ses qualités, ce que j'avais mentionné et que j'ai omis. C'est un peu rédhibitoire quand même. Mais oui, Mekhi Wingo, il a cet équilibre, effectivement, et qui pourrait faire basculer peut-être et faire... vaciller une équipe NFL, pourquoi pas, de le prendre, pourquoi pas, au deuxième tour. En tout cas, c'est un pari à tenter. Et moi, je trouve qu'il est plutôt rassurant, voire sans risque à faire, contrairement à son coéquipier Mason Smith, dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui lui présente beaucoup de défauts, et alors qu'il a pourtant le prototype idéal, mais on va pas en parler aujourd'hui. Justement, celui qui, il est petit lui aussi, un peu plus grand certes, mais qui est jeune, qui a beaucoup de potentiel, il fait partie des rares joueurs de Ohio State à s'être présenté à la draft NFL, c'est Michael Hall Jr., dont on a parlé lors de la mock draft Twitch, la toute première avec Jean-Michel et Victor. Michael Hall Jr., c'est un mec, il met ses mains partout, que ce soit sur le bas du corps, sur le haut du corps, il met ses mains partout pour essayer de s'en débarrasser. Ça, c'est une de ses plus grosses qualités. Il est aussi très déterminé. On voit que c'est un joueur qui peut être le point d'ancrage d'une ligne défensive ou alors d'une défense pour pouvoir monter au second rideau. Par contre, Michael Hall Jr., quand on le regarde, quand on l'analyse, la première chose qui nous frappe, c'est l'envergure. C'est l'envergure du joueur. Il est malheureusement un peu en dessous du prototype NFL qu'on attend d'un defensive tackle. Mais voilà, il est jeune, Tonio. Est-ce que il aura une chance en NFL, Tonio, je pense. Mais quand? Est-ce qu'il aura dès la saison rookie ou est-ce qu'il aura probablement, il faut attendre une saison avant de voir exploiter son plein potentiel?
Alors, j'espère l'équipe qui va le drafter va attendre un peu avant de le lancer dans le grand bain, parce qu'effectivement il a des petits, des grandes qualités qui sont assez évidentes là encore une fois, qui pourraient être très intéressantes en NFL, mais qui à mon sens ne sont pas encore prêtes aujourd'hui. D'ailleurs, j'aurais presque aimé le voir retourner à Ohio State pour cette saison.
Exactement, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit que lui, il a été légitime pour y retourner, mais les autres peut-être pas. Il aurait pu.
C'est ça. Mais effectivement, il a pas eu des stats incroyables cette année, hein, 2 plaquages pour perte, un sac et demi. Mais tu l'as très bien dit, il met ses mains partout. C'est le genre de joueur que, même si tu connais rien au football américain, tu allumes ta télé, tu le vois. Tu le vois parce qu'il se montre actif. Il se montre actif, il essaie de gêner un peu tout le temps, tout le monde. Et ça, tu vois, c'est une qualité qui ne s'apprend pas. C'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Lui, il l'a, clairement. Il est presque hyper actif et c'est une bonne chose. Après, ça manque de raffinement encore, ça manque aussi un peu de poids et de puissance. Ça, pour le coup, je me fais pas trop de soucis. Je pense que une fois un NFL,
il va grandir.
C'est ça. Mais il est pas encore prêt pour moi. J'espère que l'équipe qui va le drafter va prendre le temps de le développer et d'en faire un joueur qualitatif, parce que il y a ce qu'il faut pour en faire un beau joueur.
Moi, ce qui pourrait me surprendre avec Michael Hall Jr., c'est peut-être tout simplement les tests physiques du combine. Mais aussi, imagine une NFL, il saura comment l'utiliser et dans quel schéma l'utiliser. Et ben là, ça peut devenir un joueur intéressant dès la première année et peut-être dès la seconde année, effectivement. Alors peut-être pas une star, mais alors un potentiel qui, comme ça, ça peut être exploité de manière assez phénoménale. Et peut-être justement, on n'est pas loin d'accrocher peut-être le top 20 ou le top 15 des meilleurs defensive tackles. Pourquoi pas? Je vais peut-être un peu loin, mais voilà, c'est là où il doit s'améliorer, on va dire entre guillemets. Là, il va rentrer dans le monde professionnel. Et je pense que, vu ce qu'il a montré à Ohio State, les stats ne sont peut-être pas ronflantes, comme tu l'as dit. Mais je pense qu'il a ce potentiel pour y arriver. Je pense Michael Hall Jr. Et à mon avis, dès qu'une équipe NFL va voir le potentiel qu'il a, je pense qu'on va essayer de le faire jouer sur un ou deux snaps par série, voire 2-3 snaps, mais jamais 4 snaps. C'est sûr.
C'est clair qu'il y a de quoi être séduit, hein, quand tu vois son profil. Après, moi, il y a un truc aussi qui me gêne un peu chez lui, mais qui peut se corriger. C'est que j'ai l'impression qu'il n'attaque pas ses vis-à-vis avec des intentions assez méchantes, assez mauvaises. Des fois, il est un peu trop doux. Et ça, encore une fois, avec du coaching que j'aurais aimé voir au niveau universitaire et qui, j'espère, arrivera pour lui en NFL, ça peut se corriger.
Voilà, on va voir et à suivre notamment Michael Hall Jr. comme tous les prospects NFL lors du process draft, du process combine. En tout cas, un joueur qui pourrait probablement faire... qui pourra probablement être exploité, je vais y arriver, par une équipe NFL parce qu'il est jeune et que on a le temps de bien le développer. Un joueur, là, on va faire l'ascenseur, on va dire, Tonio, puisque là, on va passer d'un joueur jeune à un joueur, mais alors, entre guillemets, vieux,
Ah, c'est un papa,
pour la draft NFL. Ouais,
hein.
exactement. Voilà, c'est un papa, comme tu le dis très bien. Non, bah, Brandon Fisk, donc, pour terminer cette dernière partie. Joueur de Florida State, il a passé 4 années dans l'université de Western Michigan avant d'être transféré à Florida State. Et quelle saison!
Oh
Quelle
là là.
saison il a fait avec Jared Verse et toute la ligne défensive de Florida State. Une saison à 43 plaquages, 6 sacks notamment également pour Braden Fisk. C'est un très bel athlète. Hein. Ça, je pense que tu seras d'accord avec moi,
Ouais.
Tonio, sur la définition de l'athlète concernant Braden Fisk. Peut-être le meilleur athlète de cette QV. On n'en est pas très loin en tout cas.
Franchement, ouais.
Moi, j'aime bien son tempérament également. Mais voilà, peut-être un peu d'irrégularité, peut-être un potentiel effectivement ben, bien bas, puisque voilà, il a passé quasiment 5 ans en université et qu'il aura déjà 24 ans lors de son année rookie. Mais est-ce que ça va l'en empêcher de briller en NFL, Tonio?
Absolument pas. Alors, encore une fois, je vais essayer de faire preuve du plus d'objectivité possible parce que j'adore ce joueur. Quelle violence! Quelle violence! Quelle puissance dans tout ce qu'il fait! Mais c'est incroyable. Alors, c'est jouissif. Moi, quand je suis devant ma télé et que je le regarde, mais c'est incroyable.
Voilà, les mots sont là, les mots sont là. Attention, attention. Là, on est sur un joueur du premier tour. Attention, hein,
Alors,
attention aux mots,
peut-être pas premier tour, mais en tout cas,
hein.
la manière dont il joue, c'est encore une fois un joueur à l'ancienne. Pas tant dans le profil, parce que comme tu l'as dit, c'est un très très beau bébé, 1m96, plus de 130 kilos. C'est le prototype du defensive tackle moderne, c'est-à-dire un monstre physique. Alors, ce n'est pas des joueurs qu'on voyait dans l'ancien temps, mais la manière dont ils jouent, l'agressivité avec laquelle ils jouent, ça c'est quelque chose qu'on ne voit plus trop aujourd'hui. Et quel plaisir de voir un mec comme ça. Tu sais que quand tu es un joueur de ligne offensive et que tu vas l'affronter, tu vas passer un sale quart d'heure et tu auras des bleus le lendemain parce qu'il va faire mal. Il va faire mal. Et ça, c'est bon, quoi.
En termes de schéma, Braden Fiske, là on est sur un profil clairement dans une 43. Est-ce
Ouais.
qu'il pourrait s'adapter dans une 34 ou 43? C'est vraiment dans une 3 technique ou dans une 5 technique, enfin, il sera exploité au maximum.
Bah ouais, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il arrive aussi, malgré son grand physique, à opérer dans des petits espaces, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de prendre énormément de place pour faire ses moves ou quoi. Il arrive à se débrouiller, à trouver des petits espaces pour aller chercher le quarterback ou le coureur, même quand il n'y a pas 10 mètres carrés autour de lui, quoi. Et ça, c'est une qualité assez appréciable.
En tout cas, au Senior Bowl, on l'a vu, il s'est montré. Et en tout cas, comme on l'a dit avec Grégory Richard lors du podcast sur le Senior Bowl, il démarre très bien son process. Maintenant, il faut qu'il continue, en tout cas comme ça. Mais on sent, c'est vrai que voilà, la violence de ses mouvements, la violence aussi des plaquages qu'il fait sur le quarterback peut vraiment en étonner plus d'un. Moi, en tout cas, le premier. Mais voilà, bel athlète, peut-être évidemment d'une violence. Bon, pas extrême, évidemment, on va rester
Oui.
mesuré. Mais oui, là, on est vraiment sur un prototype de defensive tackle qui a des. Alors, pas des mains violentes, mais les plaquages, quoi. Vraiment
Là
l'agressivité,
là.
pas dans l'excès, mais vraiment bonne.
Mais c'est ça, c'est que c'est aussi c'est toujours maîtrisé. Et ça, c'est très bien. Parce que on en voit plein des joueurs qui vont dans l'excès d'agressivité, qui ne maîtrisent pas leur envie de finir leur plaquage, leur envie de finir leur sac. Lui, ça reste dans une maîtrise. Assez remarquable. Donc ouais, non, j'adore ce joueur. Franchement, je l'adore.
Et là, Tonio, on est, pour terminer sur Braden Fiske, on est sur un profil vraiment pass rusher. Est-ce que contre la course, tu le vois aussi très solide ou alors il y a encore des lacunes, notamment au niveau de la finition des plaquages?
Ben ouais, justement. Et c'est là-dessus que j'aurais aimé terminer. Tu fais bien de le mentionner. C'est que c'est très bizarre, mais c'est vraiment un problème purement technique. Ces plaquages, alors je parle pas de sac ou quoi, mais ces plaquages pour stopper les actions. Bah, des fois, tu as les joueurs qui s'échappent. Et enfin, c'est assez incompréhensible parce qu'encore une fois, il a fait 6 saisons à l'université, donc il a eu le temps d'apprendre et tout ça. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Alors, contre la course, forcément, il serait un peu limité à cause de ça. Mais je pense qu'avec du coup, parce qu'encore une fois, c'est purement technique, quoi. C'est pas quelque chose qui ne s'apprend pas pour le coup. Ça, tu lui mets un mois avec un coach défensif qui lui dit avant l'entraînement, tu me fais une vingtaine de plaquages, après l'entraînement, une vingtaine de plaquages. Ça va commencer à rentrer, en tout cas je l'espère pour lui, et j'espère qu'il va aussi être un peu mieux contre la course, mais en tout cas contre la passe, pour un defensive tackle, il n'y a pas grand-chose à redire, quoi. Il est vraiment très très bon.
Voilà, et donc c'est pour ça qu'on sait ce qu'on a avec Braden Fiske et on sait ce qu'on n'a pas avec Braden Fiske. Donc si on cherche un profil defensive tackle pass rusher, c'est votre homme. Sinon, passez votre chemin, vous allez prendre quelqu'un d'autre, peut-être un Chris Jenkins dont on a mentionné, qui est vraiment son profil limite opposé. Tonio, est-ce qu'on a fait le tour des defensive tackle?
Bah ouais, on a 9 profils, encore une fois, assez différents, assez variés. Donc non, super, super.
Voilà, donc on a fait le tour de cette QV des defensive tackle. En tout cas, on a planté le décor de cette position. En tout cas, Tonio, je te remercie d'avoir été à mes côtés.
Merci à toi. Je suis officiellement lancé avec vous dans la saison draft. Donc, un plaisir.
Exactement. Voilà, la draft ne fait que commencer, effectivement, sur touchdownactu.com. N'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, de nous suivre, hein, sur Facebook, TikTok, Instagram et Twitter anciennement et X aujourd'hui, mais aussi sur touchdownactu.com où vous retrouvez l'essentiel de l'actualité de la NFL. Pour le prochain podcast draft, retrouvez la position de Tyen avec Victor Rouillet et Jean-Michel Boujard, alors que nous, Tonio, on va s'occuper de d'autres joueurs de ligne, mais cette fois-ci de l'autre côté du terrain. Ouais. Voilà, on a de la masse physique, nous.
Hein. On aime les gros, nous, pas de grossophobie.
Voilà. Exactement, exactement. Encore de la masse physique à revendre, mais cette fois-ci de l'autre côté du terrain. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur les antennes de TDA. À bientôt. Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.